Vocation Entrepreneur, c'est votre bulle introspective en psychologie des femmes entrepreneurs. Pour cet épisode 22, j'ai invité Insaf El Hassini, avocate d'affaires, fondatrice de l'ONG Lean in France et créatrice du podcast Ma Juste Valeur. Son credo ? Vous aider à déterminer votre juste valeur et développer l'empouvoirment des femmes.
Je pense que la problématique, c'est qu'on voit l'indépendance comme une récompense. On a suffisamment bien travaillé à l'école, on a suivi un petit peu le chemin qui a été tout tracé pour nous, et on espère qu'au final, notre indépendance émotionnelle, financière, humaine, nous sera donnée naturellement. Et la difficulté, c'est qu'en faisant ça, on abandonne notre pouvoir. On abandonne le pouvoir que l'on a dans la trajectoire de notre vie. Alors que si on part du postulat que l'indépendance est une responsabilité, c'est une responsabilité et c'est un devoir que l'on doit à nous-mêmes, on change tout de suite de prisme et on change de perspective. Et dans ce cas-là, on n'est plus spectatrice de notre vie, mais on en devient actrice.
Dans cette interview, vous allez découvrir une entrepreneure qui se connaît très bien. Elle connaît ses forces, ses faiblesses, et grâce à ça, elle est capable d'aider la plupart des femmes à déterminer leur juste valeur. Insaf fait preuve d'une maturité émotionnelle comme j'en ai rarement vu, et c'est le socle de son leadership. Insaf, c'est aussi une très jeune maman qui s'est découvert une passion pour la maternité. Avant d'avoir son fils, elle imaginait la maternité comme un frein à sa carrière. Aujourd'hui, son fils est son principal moteur. Vous allez comprendre que pour devenir indépendante financièrement, vous devez passer par une indépendance émotionnelle, psychologique et statutaire. Et je peux vous dire que quand on est une femme dans cette société, c'est pas rien. Avec cet épisode, je suis persuadée que vous allez grandir. Pour Insaf, la femme doit sortir de la culpabilité pour embrasser la responsabilité. Et ça, ça plaît pas forcément à tout le monde. Devenir indépendante, ça implique de prendre sa place. Et quand vous prenez votre place, vous n'êtes plus facilement malléable. En fait, l'indépendance financière, c'est un peu le bout du processus, quoi. Avant d'assumer pleinement cette indépendance financière, je vous invite à explorer un peu votre intérieur psychologique et c'est parti pour une heure d'interview avec l'experte en négociation. Bonjour Insaf.
Bonjour Hayette.
Bienvenue sur Vocation Entrepreneur.
Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là.
Ah bah c'est un honneur pour moi de te recevoir en tout cas.
Merci, tu me flattes.
Insaf, tu es avocate d'affaires, fondatrice du réseau Lean in France, donc une ONG qui participe activement à l'évolution de la société vers plus d'égalité entre hommes et femmes et qui met en place des actions pour développer l'empowerment. Donc pour les gens qui savent pas ce que c'est, on a essayé de trouver une petite... Un petit synonyme, c'est l'autonomisation, mais je sais que c'est pas terrible.
Moi, j'aime bien parler d'empouvoirment.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu dis l'empouvoirment. Donc ça, c'est un super néologisme qu'on va pouvoir utiliser et qu'on va t'attribuer sans problème. Donc l'empouvoirment des femmes et la lutte des biais de genre. Donc j'imagine tous les biais culturels, psychologiques, sociétaux.
Absolument.
Voilà. Tu es aussi formatrice. Tu accompagnes des particuliers, des entreprises, hein, donc des managers, des RH, et même des écoles post-bac pour changer les mentalités d'inégalité salariale. Mmh. Et tu les aides à définir leur juste valeur.
Absolument.
et puis moi, je t'ai découverte à travers ton podcast, le podcast Ma Juste Valeur, qui porte la voix de l'égalité salariale. Donc, c'est un podcast que tu as créé en partenariat avec la multinationale Capgemini, société qui est spécialisée dans le numérique. Et c'est par ce podcast-là que je t'ai connue. Mmh. Alors, Insaf, tu es la troisième juriste que j'invite sur Vocation Entrepreneur. Franchement, je ne le fais pas exprès. Mais je pense qu'inconsciemment, je dois être attirée par les personnes qui ont eu le même cursus universitaire que moi. Et je sais pas, il y a peut-être une forme de langage commun, quelque chose, un esprit de juriste. Voilà, en tout cas.
Il y a un schéma qu'il faut étudier.
Voilà, c'est ça, exactement. Il doit y avoir un schéma mental derrière tout ça. En tout cas, quand j'ai vu le sujet de ton podcast, j'ai dit « Waouh, elle l'a fait, quoi ». Et je me suis dit, cet entrepreneur, parce que tu es aussi entrepreneur, je veux absolument l'inviter pour nous parler de son expérience dans la négociation et plus particulièrement des conditions psychologiques qui favorisent l'indépendance financière des femmes. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Parce que moi, je suis persuadée que connaître sa valeur, ce n'est pas cantonné au salariat. Et je vais même dire que quand on veut entreprendre, on doit connaître et apprendre à déterminer sa juste valeur. Donc, je suis sûre que tu vas nous apporter des éléments extrêmement intéressants sur la psychologie de la négociation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre le zoom sur un moment symbolique de ta vie. C'est ce jour où tu as rencontré Sheryl Sandberg, l'auteur du livre Leaning. Donc, pour la traduction, c'est En avant toute. Donc, il existe en français. Donc, ce fameux livre qui a littéralement changé ta vie et qui a drivé tout ce que tu as pu créer par la suite, notamment l'ONG Leaning France. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est Sheryl Sandberg, le rôle que cette femme a eu dans ta vie, et raconte-nous cette fameuse rencontre.
Alors, j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois, puisque j'ai la chance de la rencontrer toutes les années. La seule fois où on ne s'est pas vu, on se voit de manière annuelle, et la seule fois où je ne l'ai pas vue, c'était l'année dernière. Parce que, pour cause de Covid,
oui, hein, on sait tous.
Écoute, Sheryl Sandberg, je l'ai rencontrée pour la première fois en 2016, à l'été 2016. En fait, oui. Ça faisait une bonne grosse année que j'avais lancé Leaning Paris. Et donc, son équipe m'avait repérée et m'a invitée à Palo Alto pour la rencontrer. On est vraiment dans les prémices du mouvement Leaning. Oui. Sheryl a lancé son mouvement, donc le mouvement Leaning.org, suite au bouquin qu'elle a écrit qui s'appelle Leaning en anglais et En avant toute en français. Mm-hmm. Et à la fin du bouquin, elle proposait aux femmes de se regrouper en cercle pour mutualiser les compétences, pour s'empouvoirer mutuellement et pour créer de la sororité afin de faire un peu concurrence à tous les boys clubs qu'on connaît.
Ah oui, oui.
Et du coup, moi, j'avais lancé en décembre 2014 mon cercle qui a très bien marché puisqu'il est passé de, on est passé à l'époque de 6-7 à 150 en un an. Ah et, oui. Et du coup, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Et du coup, le cercle d'INSAF est devenu en 2015 Leaning Paris. Et un an et demi après, je recevais un email de ses équipes qui me disait qu'elle suivait mon travail et qu'elle voulait m'inviter à la rencontrer. Donc, je l'ai rencontrée au mois d'août 2016 à Palo Alto. Ah oui. Avec d'autres leaders. Donc, on est vraiment les leaders originels du mouvement Leaning. Donc, il y avait des Américaines, il y avait une Espagnole, il y avait une Italienne, il y avait moi, il y avait des Malaisiennes. Voilà, on était quelques-unes comme ça. Une Irlandaise aussi. Mm-hmm. Et puis, elle a été d'une humanité assez incroyable. On s'imagine que ce genre de femmes qui sont multimilliardaires sont complètement inaccessibles et en fait, pas du tout. Parce qu'elle nous a invités à dîner chez elle. Donc, on est allé chez elle, on a partagé autour d'un dîner. Elle était vraiment très, très encline à recevoir notre retour d'expérience sur le terrain. Et donc, on lui a fait notre retour d'expérience sur le terrain. Elle nous a vraiment associés à la construction du mouvement Leaning qu'on connaît aujourd'hui, qui a plus de 6 ans et qui est vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment très international, qui est connu partout dans le monde et qui... Même en termes de nombre, c'est assez impressionnant parce qu'on compte aujourd'hui 40 000 cercles, un peu plus de 40 000 cercles. Et rien qu'en France, on est à 180 cercles, tu vois. Donc,
d'accord.
Donc voilà. Et depuis 2016, je la rencontre toutes les années, on fait le point. Elle me donne des challenges. Elle est venue en 2018 quand elle a adoubé Leaning France en disant bon, bah voilà, Leaning Paris devient Leaning France, INSAF devient la CEO de notre antenne francophone et française officielle. Et voilà, on se rencontre un peu tous les ans. On échange aussi assez régulièrement par email sur des sujets qui sont autant professionnels que personnels. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un comme elle qui est vraiment quelqu'un qui est d'une grande qualité humaine et professionnelle sur tous les aspects, tu vois, de ma vie, qu'il soit professionnel ou personnel.
Et justement, cette personne, est-ce que tu aurais imaginé un jour la rencontrer, le jour où tu as lu son livre, ce livre qui trônait sur ton chevet depuis des mois, voire des années? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as lu ce livre et le moment où tu l'as rencontré?
Alors, moi, je rêvais pas spécialement de la rencontrer de manière très transparente. En fait, j'ai pas tendance à un peu sacraliser les personnes. Je sais qu'il y en a qui idolâtrent certaines personnes. Moi, sincèrement, j'idolâtre personne. Je suis consciente qu'on est tous humains. Après, j'ai conscience de la grande qualité et du parcours incroyable de cette femme. Mais je n'avais pas forcément cet objectif de la rencontrer. Et par contre, j'avais comme objectif vraiment de mettre en pratique les conseils qu'elle donnait dans le livre et d'essayer de réaliser ma mission de vie comme elle l'a fait et qu'elle continue à le faire à travers Facebook, à travers ses activités business et à travers ses activités humanitaires aussi.
D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que l'ININ, enfin comment dire
le mouvement.
Voilà, le mouvement l'ININ ou même la culture l'ININ t'a apporté toi dans ton quotidien.
Alors clairement, moi je le dis, hein, l'ININ ça a changé ma vie, vraiment. Mmh. On a un avant l'ININ et on a un après l'ININ. Et en fait, je découvre l'ININ donc en décembre 2014, j'ai 32 ans à cette époque. Et tu le connais, je l'ai raconté dans plusieurs podcasts, autres podcasts. J'étais dans une période qui était pas très rose, je dirais, de ma vie, mais c'est tant mieux parce que moi je trouve que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on apprend sur soi et qu'on grandit. C'est vrai. Vraiment, j'ai vraiment le sentiment que l'univers m'a dit, hut, je siffle la fin de la récréation. L'univers, la vie, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Et maintenant, ils savent, tu vas passer au step supérieur. Et du coup, vraiment, quand je découvre l'ININ, je mets des mots sur des ressentis que j'avais, qui étaient très ancrés en moi, mais que je savais pas comment vocaliser, verbaliser. Oui. Donc, je découvre que je suis en fait féministe. Tu sais, avant, quand on me demandait si j'étais féministe, pour moi, les féministes, c'était des hystériques.
Oui.
Donc, je disais, non, je suis pas féministe. Par contre, je suis pour l'égalité des droits. Et c'est en découvrant l'ININ que je découvre que quand tu es pour l'égalité des droits, par définition, tu es féministe. Je découvre aussi que, en fait, je suis pas quelqu'un d'autoritaire, je suis pas quelqu'un de bossy, je suis juste une leader. Oui. Et que j'ai juste des compétences de leader. J'apprends aussi beaucoup de choses sur moi. Et puis, l'ININ, maintenant, ça fait près... quand même plus de 6 ans que je suis dans le mouvement et ça fait plus de 6 ans que j'ai grandi grâce à ce mouvement-là et je vois énormément de phases d'amélioration et d'axes d'amélioration dans mon parcours. Au départ, tu sais, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de personnalité, mais j'avais du mal à m'affirmer, j'avais du mal à vocaliser justement ma juste valeur. Et j'étais tout le temps soit dans le conflit, soit dans le silence. Donc, tu sais, je me taisais pour faire plaisir à tout le monde. Et puis, un coup, j'ai explosé comme une cocotte minute.
Oui, oui, je vois.
Donc, voilà, tu sais, j'étais... Et ça m'a appris tellement. Vraiment, ça a été une merveilleuse école. J'ai rencontré des gens merveilleux. Ça m'a permis de croire en moi, en mon potentiel également. Et aujourd'hui, je suis contente de la femme que je suis devenue et de mon évolution.
Eh ben c'est super. C'est vrai que là, quand on t'écoute, on a l'impression qu'effectivement, avant, c'était la période un peu d'immaturité. Et puis, parce qu'il n'y avait pas de sens réellement et on n'arrivait pas, comme tu as dit, tu n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que tu ressentais. Et comme un enfant, quand il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en colère parce qu'il n'arrive pas, en fait, à déterminer réellement ce qui se passe en lui. Et là... Et c'est vrai que c'est très intéressant pour le leadership quand on arrive à connaître clairement ce qu'on veut et ce qu'on est et ce qu'on a envie de devenir, et ben tout d'un coup tout se canalise. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Ben moi je suis parfaitement d'accord avec tes propos, Hayat. En fait le truc c'est que j'ai appris avec l'ININ que j'avais des émotions et que ces émotions c'était vraiment des alliés dans ma vie de tous les jours. Mmh. Mais comme des alliés et des amis, ou comme la famille d'ailleurs, il faut leur montrer des fois le chemin de l'entrée et de la sortie également. Et en fait, j'ai appris à les canaliser, j'ai appris à mettre des mots sur mes émotions, j'ai appris aussi à m'affirmer, parce que très souvent, quand on ne s'affirme pas, eh ben malheureusement, on est dans des cercles négatifs, oui. Qui sont des cercles vicieux où on n'a pas osé s'affirmer, du coup on s'en veut, comme on s'en veut, on est un peu en colère contre soi et contre les autres qui nous ont pas aidés à nous affirmer, et du coup, voilà, on est dans un peu ce cercle vicieux où en fait on n'est pas aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait.
Oui.
Et toute personne qui n'est pas alignée, en fait, elle vibre mal, et quand tu vibres mal, eh ben malheureusement, ça se retourne contre toi parce que tu n'es pas aligné avec ton propos et avec ce que tu souhaites faire. Donc, c'est vraiment là-dessus que moi, l'ININ m'a beaucoup aidée. Et puis même en tant qu'entrepreneur, parce qu'on entreprend dans le business, mais aussi dans l'humanitaire, ça a été une école incroyable, incroyable.
Mais ça tombe bien.
Beaucoup de choses.
Ça tombe bien ce que tu dis, parce que J'ai une phrase à te donner. Mm-hmm. Une phrase, c'est un universitaire québécois, Pierre Bourgault, qui dit « L'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. »
J'adore.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Bah écoute, moi je suis absolument d'accord avec lui. La problématique, et je pense qu'on va du coup arriver sur le cœur du sujet d'aujourd'hui et de cet épisode. Je pense que la problématique, c'est qu'on voit l'indépendance comme une récompense. On a suffisamment bien travaillé à l'école, on a suivi un petit peu le chemin qui a été tout tracé pour nous, et on espère qu'au final, notre indépendance émotionnelle, financière, humaine, nous sera donnée vraiment. Naturellement. Et la difficulté, c'est qu'en faisant ça, on abandonne notre pouvoir.
Oui, c'est
on
ça.
Abandonne le pouvoir que l'on a dans la trajectoire de notre vie. Alors que si on part du postulat que l'indépendance est une responsabilité, c'est une responsabilité et c'est un devoir que l'on doit à nous-mêmes, on change tout de suite de prisme et on change de perspective. Et dans ce cas-là, on n'est plus spectatrice de notre vie, mais on en devient actrice.
Oui.
Et c'est là où c'est hyper intéressant. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ta vie, tu n'en as qu'une, parce qu'on nous le dit souvent, mais on s'en rend pas vraiment compte. Mmh. Je pense que plus t'approches la quarantaine, la cinquantaine, et plus tu touches, tu comprends, parce que tu prends en maturité aussi, gagnes en maturité. Tu comprends vraiment qu'une vie, on n'en a qu'une. Mais très souvent, on nous le dit pas, ça. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la problématique majeure chez les femmes dans le monde professionnel, et même dans la vie de manière générale, c'est qu'on leur donne un ticket pour aller à la piscine, mais qu'on leur apprend jamais à nager.
Oui, c'est ça.
C'est ça la difficulté.
Et en du fait, coup, on les cantonne à la victimisation. Et elles ne s'en rendent pas compte.
Et on le voit bien même socialement, il est plus acceptable d'être dans la victimisation et dans une position de vulnérabilité que dans une position de responsabilité, d'acceptation de soi-même et d'assumer qui on est et de le vocaliser. Les femmes qui vocalisent leur juste valeur, elles font peur. Et c'est pour ça qu'on les taxe d'hystériques, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont trop autoritaires, qu'elles sont bossies, etc.
Et bien sûr, toutes les personnes qui prétendent à ce statut-là, se disent « non, j'ai pas envie d'être taxée d'hystérique, ni de folle, ni de féministe, voilà. »
Mais taré, oui, mais c'est normal, parce que on est quand même des animaux sociaux.
Oui,
donc,
tout à fait.
Il est important, tu vois, de correspondre à une tribu, il est important d'être accepté par ses pairs, par sa famille, par ses amis, par ses collègues. On est quand même des animaux sociaux, il faut pas l'oublier. Et il faut pas se culpabiliser d'avoir envie d'être accepté.
Oui.
Envie d'être accepté, c'est une chose. Envie de plaire en est une autre. Et c'est vraiment quand on va dans, quand on dépasse cette envie et qu'on est vraiment dans l'idée de vouloir être, de plaire vraiment à tout le monde ou d'être accepté vraiment par tout le monde. C'est quand on enlève la nuance qu'on est un peu dans le faux, j'ai envie de dire.
Oui,
et
c'est ça.
Avoir envie de plaire et avoir envie d'accepter, c'est un sentiment qui est naturel. Donc, si on te dit que pour t'accepter, il faut que tu sois conforme à une image de la femme qu'on a dressée pour toi, mais qui ne te correspond pas, tu te tends comme un bambou pendant des années, mais à un moment donné, même si tu as un bambou et tu ne casses pas, il y a des moments où ça frotte, tu vois. Et donc, il y a des moments où tu es dans une situation de profond inconfort qui ne te correspond pas, et c'est de là dont viennent toutes les émotions que certaines femmes vivent.
Voilà, et moi, tu sais, j'ai un problème avec le fait de défendre des droits sans investir le terrain. T'es juriste, hein, tu as une certaine conception de la défense des droits. Tu es avocate aussi, donc tu sais ce que c'est. C'est-à-dire que, pour moi, aller revendiquer, manifester, nous avons des droits, sans avoir de réel pouvoir, c'est un peu balayer du vent.
C'est ma conception. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est pour ça, tu sais, moi, je dis toujours, et ça, c'est un de mes leitmotifs dans ma juste valeur, justement. En fait, je dis à tout le monde, sortez de la culpabilité et entrez dans la responsabilité. On le voit, des fois, tu te sens coupable parce que tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Tu te sens coupable parce que tu as envie d'instaurer un peu plus d'égalité dans le partage des tâches ménagères à la maison, mais tu n'y arrives pas avec ton partenaire ou ton conjoint. T'as envie de négocier ton salaire et dire à ton employeur, écoute, tu ne me rémunères pas à la juste valeur de ma contribution générale à cette équipe et cette entreprise, mais t'oses pas. Et du coup, à force de dire oui à tout le monde et se dire non à soi-même, on est encore une fois dans une posture de culpabilité. Donc, on se culpabilise et du coup, on rejette la faute sur l'autre en lui disant, c'est ta faute, tu ne m'as pas donné l'autorisation de le faire, tu ne m'as pas permis de le faire. Alors que moi, ce que je dis, c'est, sortons de la culpabilité, rentrons dans la responsabilité. On a tout un pouvoir. C'est de décider ce qu'on va faire demain, aujourd'hui, après-demain, de décider ce qu'on doit faire. Donc, puisqu'on a ce pouvoir-là, ne l'abandonnons pas à quelqu'un d'autre pour venir après lui reprocher de ne pas nous avoir donné ce qu'on voulait.
C'est ça, tout à fait. Et l'indépendance financière, ça passe malheureusement ou heureusement par ça. C'est-à-dire le fait de se réapproprier son pouvoir sur sa propre indépendance financière. Et l'argent, donc ce formidable outil qui permet d'avoir un énorme pouvoir et de ne dépendre de personne, c'est un sujet qui est difficile à aborder dans notre société, notamment avec les femmes, parce que dès qu'on parle d'argent, ça nécessite une indépendance financière, ça nécessite aussi derrière qu'on doit être confronté en fait aux gens qui ne sont pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Et en fait, on va creuser des problèmes qui sont profonds. Et alors, plutôt que d'affronter le problème, on va, comme tu dis, se cacher derrière cette position de victime. Et on perd énormément d'énergie à crier à qui veut l'entendre « on ne prend pas soin de moi », alors que c'est à la femme de prendre soin d'elle, finalement.
Alors, et moi, je suis d'accord avec ton propos, encore une fois, Hayat. Pour moi, l'argent, c'est une énergie.
Oui.
D'abord, c'est une énergie et c'est un outil parmi tant d'autres. C'est quoi, à la base, l'argent? C'est une contrepartie qui va te permettre de gagner en liberté. Quand tu as de l'argent, tu peux faire garder tes enfants. Donc, tu peux t'acheter du repos. Même si tu es mère au foyer, tu peux les garder 2 heures pour aller te balader, faire l'équitation, faire du vélo, dormir, faire ce que bon te semble pour te retrouver entre toi et toi-même et ce que les anglophones appellent du me time, tu vois?
Oui.
Donc, c'est ça l'argent. L'argent, c'est également quelque chose qui va te permettre, un outil, une énergie, de poser de la nourriture sur la table pour toi et tes enfants.
Oui, tout à fait.
D'avoir un toit sur la tête, de pouvoir leur assurer un avenir financier, un avenir éducationnel, un avenir humain, tu vois.
Et pourquoi ça pose beaucoup de problèmes dès qu'on parle d'argent? Qu'est-ce qui provoque ces réactions vives?
Parce que l'argent, et les études l'ont prouvé, il y a beaucoup de livres aussi qui sont écrits dessus, qui ont été écrits pas sur l'argent, mais sur plusieurs attributs de masculinité. Si tu veux, en fait, l'argent, c'est un attribut de masculinité. Ouais. À la base, l'argent, si on repart quelques siècles en arrière, c'est un peu le gibier que le chasseur est parti ramener pendant que toi, tu t'occupais un peu du foyer. C'est ça le truc. Et du coup, comme pendant la préhistoire et après ça s'est prouvé par la suite, l'argent, ça a toujours été un attribut de masculinité. Donc, c'était l'attribut de l'homme. Lorsqu'une femme veut appréhender ses attributs masculins, il y a des levées de boucliers qui arrivent. Ouais. Je vais te donner un exemple qui est tout simple. Il n'y a pas très longtemps, le pantalon était un attribut de masculinité et les femmes qui portaient des pantalons étaient brûlées vives comme sorcières.
Oui.
Et puis après, on leur a interdit par la loi de porter des pantalons. On est arrivé à un moment, jusqu'à un jour où une députée est entrée au Parlement, à l'Assemblée nationale. Elle portait un pantalon. On voulait lui interdire l'entrée de l'hémicycle. Et elle a répondu de manière très, très fine. Est-ce que vous voulez que je l'enlève et que je rentre en culotte? À comprendre, tu vois. Donc, en fait, pour résumer tout ça, sans entrer dans des débats vraiment profondément
politiques,
l'argent est un attribut de masculinité. Donc, quand une femme souhaite s'en emparer, un, c'est suspicieux. Deux, ça fait extrêmement peur. Mmh. Et trois, l'argent est très émotionnalisé. Oui. Donc, chacun a un rapport particulier avec l'argent en fonction de sa culture, de son histoire personnelle, de son schéma familial. Et à partir de là, en fonction du rapport que tu as avec l'argent, il y en a qui vont y trouver de la noblesse et il y en a qui trouvent de la noblesse dans la pauvreté. Et donc, pour eux, l'argent, c'est quelque chose de sale, d'inconvenu et dont il faut pas, il faut se séparer au maximum. Donc voilà, tout ça, ça fait un peu une tchèque-chouka, un boulgui-boulga émotionnel qui dépend beaucoup de l'expérience de tout à chacun. Mais ce qui est certain, c'est que ça devient quelque chose dont on veut exclure les femmes. Et donc, lorsque les femmes s'en emparent de manière naturelle et de manière volontaire, on les taxe, elles font peur et on les taxe d'être vénales. La femme ne doit pas s'intéresser à l'argent. Les seules femmes qui s'intéressent à l'argent sont des femmes qui veulent l'enlever aux hommes.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est une bataille, en fait. C'est pas partageable. C'est un pré-gardé, un petit pré-carré.
Voilà, exactement.
Et Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu fais la différence entre vouloir gagner beaucoup d'argent et vouloir être payé à sa juste valeur.
Alors oui, je fais une... Alors tu n'avais pas terminé ta question peut-être.
Non. Alors justement, moi ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est juste une question de mots ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière cette distinction ?
Je pense qu'il y a une subtilité. Quand tu dis que tu veux gagner beaucoup d'argent, déjà moi ce que j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent, si c'est le cas et si c'est ce qu'elles pensent, n'ayez pas honte, c'est normal. Chacun décide de ce qu'il veut dans sa vie. Et quand vous dites que vous voulez gagner beaucoup d'argent, en réalité, ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez avoir un outil qui vous permet d'avoir encore plus de liberté. Et donc, si ça, ça peut vous permettre de vous réconcilier avec cette affirmation-là, dites-le et répétez-le vous. Ça, c'est la première chose. Vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui... Ça dépend de tout à chacun. Vraiment, moi, je le dis parce que je n'ai absolument pas honte et je pense qu'il faut montrer l'exemple. Je suis quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent. Et pas parce que j'ai envie d'écraser tout le monde, que j'ai envie d'éventrer les gens et de leur marcher sur la tête. C'est juste que pour moi, l'argent, c'est de la liberté. Oui. Et gagner beaucoup d'argent, bah, ça me permettrait d'avoir quelqu'un à la maison pour m'aider, quelqu'un pour m'aider avec la garde des enfants. Et ça peut me libérer du temps pour faire des choses dans lesquelles je m'épanouis.
Oui, tu le vois vraiment comme un outil, en fait.
C'est un outil.
Peut-être c'est réglé.
Exactement. Donc, pour moi, affirmer le fait qu'on veut gagner beaucoup d'argent, déjà n'ayez pas honte, et affirmez-le et réaffirmez-le, parce que c'est comme ça que vous allez attirer la richesse à vous.
Oui.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, être rémunéré à sa juste valeur, pourquoi est-ce que je dis que c'est sensiblement différent ? Parce qu'en fait, quand on parle de négociation, on pense toujours que c'est un peu un jeu de dupe et de manipulation. Qui va mieux manipuler l'autre et qui, finalement, dans
c'est
une
vrai.
Discussion... Ou un échange.
Quand j'entends, le mot négociation, il y a un truc qui me met mal à l'aise. On dirait, tu sais, ce jeu de ping-pong là, et puis il y a quelqu'un qui va gagner et quelqu'un qui va perdre.
Alors, malheureusement, ça, c'est ce qui est véhiculé par les films, les séries, les livres, l'inconscient collectif. Pourquoi ? Parce que c'est plus intéressant d'apporter un peu de noirceur à certaines thématiques pour pouvoir gagner en buzz et en contenu dans le scénario. Donc ça c'est ce qui est véhiculé par l'imaginaire collectif. Mais la réalité d'une négociation, qu'est-ce que c'est ? C'est deux personnes qui se mettent autour de la table, qui ont chacune deux intérêts opposés, mais un intérêt commun. Et l'idée, c'est de travailler ensemble, discuter ensemble pour arriver à réaliser cet intérêt commun en respectant les intérêts de chacune des contreparties. Et tu sais, la première chose qu'on t'apprend quand tu négocies, et toi, t'es juriste et t'as travaillé pour Ernst & Young, donc tu as certainement dû négocier des contrats. Tu sais très bien qu'un bon contrat, un contrat qui tient dans la durée, qui fait preuve d'une relation professionnelle saine et qui va tenir sur le long terme, c'est pas un one shot où il y a quelqu'un qui a imposé son rapport de force.
Oui.
C'est pas du tout ça. C'est un contrat qui est équilibré. Et donc, la négociation de rémunération, c'est la même chose. C'est de se dire, toi, tu as quelque chose dont j'ai besoin, un emploi, pour me permettre de vivre et de gagner de l'argent. Mais en contrepartie, moi, j'ai quelque chose dont tu as besoin pour faire grandir ton entreprise et toi aussi gagner de l'argent. C'est mes compétences, mon expertise et mon expérience. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désémotionnaliser les choses. On va partir sur des éléments de marché qui vont nous permettre de trouver une solution qui sera win-win, gagnant-gagnant pour chacun. C'est-à-dire toi, recruter quelqu'un pour toi, pour ton entreprise et ta structure lui permet de la faire évoluer. Et de mon côté, je vais prendre en charge un emploi qui va me rémunérer à ma juste valeur.
Mais j'aime beaucoup hein, cette vision gagnant-gagnant. Ça me fait penser un peu, tu sais, à un exemple qui parle bien dans un couple entre un parent et un enfant. Il y a toujours de la négociation, finalement, quand tu regardes
bien. La vie est faite de négociation, effectivement.
Il y a toujours de la négociation. Et quand il y a des rapports de force imposés, la relation, elle dure pas longtemps. Et comme tu dis, quand il y a une prise en compte des intérêts de chacun et qu'on arrive à trouver un équilibre entre les deux, la relation, elle est pérenne à ce moment-là. J'adore ta façon de voir les choses.
En fait, la difficulté, elle est là. C'est vraiment là où réside la difficulté. C'est là où, pour moi, c'est le challenge de la conduite du changement, c'est de changer les états d'esprit, c'est de changer le mindset de tout le monde. Mmh. En fait, la difficulté, c'est que, voilà, le monde de l'entreprise et le monde du travail, on passe le cachet. C'est un monde qui a été créé par les hommes, pour les hommes et grâce aux hommes. Les femmes, elles n'ont pas du tout été prises en considération dans l'équation, ni au départ, ni maintenant. On essaye un petit peu de les prendre un peu en compte, mais très difficilement. Et du coup, comme si tu veux, les attributs de masculinité, c'est le rapport de force, c'est la domination. Et c'est pour ça aussi qu'on se rend compte avec la période de l'industrialisation, les employeurs, les patrons, c'était vraiment la force qui déterminait qui pouvait manger ou pas, oui. Si tu veux, sur la durée et dans les siècles et dans les années, le monde du travail et le monde de l'entreprise a gardé ses stigmates du rapport de force et de domination. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ces stigmates, on n'a plus besoin d'envisager le travail comme un rapport de force ou de domination. Le travail, c'est un rapport de collaboration. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. Oui. Nous sommes tous les deux importants parce que la réalité, c'est que tu peux être l'employeur le plus riche du monde et l'employeur le plus puissant du monde. Derrière, si ton entreprise, elle marche, c'est parce que tu as des humains qui la font marcher.
Exactement.
Et sans ces humains-là, tu n'es rien. Donc, à partir du moment où tu as compris que tu es codépendant du reste de l'humanité et que tu as tout intérêt à les traiter de manière juste, eh ben, tu as tout compris. Et malheureusement, et c'est ce qu'on comprend aujourd'hui et c'est ce que ressentent aussi les employeurs et le monde de l'entreprise aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a énormément de turnover. C'est très compliqué de garder des gens, mais oui. C'est parce qu'en fait, ils ne sont pas reconnus à la juste mesure de leur contribution, tu vois.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une explosion grâce au web de l'entrepreneuriat et du micro-entrepreneuriat, parce que moi j'en suis un exemple vivant. Si je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est parce que justement, comme tu dis, je n'arrivais pas à trouver cette reconnaissance dans le salariat. J'attendais une récompense. Mmh. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais tu l'auras jamais cette récompense. Va falloir que tu deviennes responsable. Et dans la notion de juste valeur, il y a cette idée de prendre sa place.
Oui.
Donc, prendre sa place à un endroit que je dirais ergonomique à ce qu'on est. Mmh. Comment toi, tu aides les personnes que tu formes à prendre conscience de l'intérieur de leurs valeurs?
Alors moi, je travaille sur 3 piliers. Pour que tu prennes conscience de ta juste valeur dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle, dans un premier temps, déjà, il faut déterminer ta valeur. Détermine-la. Une fois que tu l'as déterminée, il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'il faut t'assumer comme tu es. On ne laisse aucun levier on ne laisse aucun levier aux autres pour venir nous juger ou nous dire que nous ne sommes pas suffisamment ceci ou trop cela. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Tu détermines ce que tu es, tu assumes qui tu es et après, tu apprends à le vocaliser.
Ça, c'est... Alors, comment tu peux déterminer une valeur? Parce que moi, j'imagine, là, je suis en face de toi, tu es en train de me coacher. Tu me dis, il va falloir que tu détermines ta valeur. Alors, comment déterminer une valeur qui n'est pas palpable?
Alors, c'est là où c'est intéressant, si on circonscrit notre discussion, on va d'abord parler du milieu professionnel.
D'accord.
Quand je te dis déterminer ta valeur professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta valeur professionnelle, c'est quoi? C'est ton profil professionnel, les études que tu as faites, tes compétences, ton expertise, ton expérience. Tout ça, ça a une valeur sur le marché du travail. De la même manière qu'une baguette de pain, sur le marché de la baguette de pain, on sait qu'elle a une valeur monétaire entre 80 centimes d'euros et 1,20 €. Toi, en tant que professionnel, juriste, informaticienne, mécanicienne, peu importe le travail que tu as, le marché du travail t'as accordé une valeur qui est dans une fourchette qui est établie par des éléments de marché. Moi, déjà, je t'apprends à aller la découvrir dans le maquis d'informations qu'on peut trouver et à sortir cette fourchette-là. Donc ça vraiment, c'est la valeur professionnelle et monétaire, c'est-à-dire le salaire que tu peux auquel tu peux prétendre. Maintenant, si on fait le parallèle avec la vie personnelle, c'est quoi ta valeur à toi? Tu vas me dire, mais Insa, je ne sais pas. Quelle est ma valeur de femme, moi? Je vais te dire, ma Hayet, tu es une femme, tu es une mère, tu es aussi une actrice de ce monde, tu es quelqu'un qui évolue dans ta famille, dans ta vie, auprès de tes amis, d'une certaine manière. Essaie de dresser un peu toutes les bonnes choses que tu fais et toutes les choses que tu apportes à ta famille, à tes amis et à ton foyer. Et à partir de là, on va travailler toutes les deux ensemble pour essayer d'attribuer des choses qui vont te permettre à toi déjà de prendre conscience de qui tu es. Parce que la plus grande difficulté dans la sphère personnelle, c'est que les femmes, de manière générale, n'ont pas conscience de tout ce qu'elles font.
Oui, c'est vrai.
Elles n'ont pas conscience. Mais oui, elles n'ont pas conscience de tout ce qu'elles font. Ouais. Elles n'ont pas conscience de tout ce, de qui elles sont. Donc, la première chose qui est très importante, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que tu fais et qui tu es. Et une fois que tu en as pris conscience, ça c'est un travail, hein, c'est plus difficile que dans la, que quand on parle de la valeur personnelle que la valeur professionnelle. Oui. Parce que la valeur professionnelle, tout est factualisé. Tu sais, tout c'est des éléments de marché, tout est rationnel, objectivisé. Alors que pour le personnel, on est dans le domaine du subjectif. Eh ben, maintenant, il faut l'assumer. Et on l'assume avec des exercices de coaching qui sont très classiques. Hein. Mais, oui. Mais je t'aide à assumer pleinement qui tu es, parce que on s'aperçoit que la difficulté, c'est qu'on a peur d'être jugé. On a vraiment peur d'être jugé.
Ce problème, on le retrouve aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que tu sais, dans l'entrepreneuriat, par rapport au salariat, ce qui est différent, c'est que dans le salariat, tu as des éléments factuels, comme tu dis, des grilles salariales, etc. Donc, il y a des rapports de force. Dans l'entrepreneuriat, quand tu débarques comme ça, parce que justement, dans ce podcast, il s'adresse et essentiellement aux entrepreneurs, et j'essaye toujours de faire des parallèles, tu arrives et tu ne connais pas ta valeur parce que tu ne connais pas encore ton marché. Et toi, tu es entrepreneur. Comment tu as fait pour transposer cette façon de penser dans ton business à toi? Qu'est-ce que tu t'es dit?
En fait, moi, ma juste valeur, c'est vraiment une méthode, une technique qui te permet, qui va permettre aux salariés, aux indépendants, aux fonctionnaires, aux contractuels de l'administration publique de savoir exactement déterminer leur valeur sur le marché, l'assumer, puis après la défendre. Quand tu es entrepreneur et que tu veux déterminer ta valeur, quand on dit déterminer ta valeur, c'est déterminer la valeur de tes prestations, du service que tu proposes.
C'est ça.
C'est très simple. Tu as un service et ton service. Et en fait, la difficulté avec les entrepreneurs, et elle est vraiment, vraiment là, la difficulté, c'est qu'ils ont tendance à négocier leurs tarifs sur leur niveau de confiance en eux, oui, plutôt que sur le niveau de leurs compétences et le niveau de qualité de leur travail. Et du coup, comme plusieurs femmes n'ont pas vraiment confiance en elles et qu'elles sont dans cette crainte de ne jamais avoir de clients, elles vont te niveler les prix vers le bas, le plus bas de chez le plus bas. Limite, elles te font les choses gratuitement. Mais en faisant ça, elles n'ont pas le respect de leurs clients. Elles attirent que des personnes qui sont bien déterminées à profiter d'elles, oui, et elles se mettent dans une position de vulnérabilité. Donc, moi, ce que je leur apprends, c'est de leur dire « Ok, le service que tu proposes, il a un prix sur le marché. » Il a une cible et il a une fourchette de tarification. Je vais t'aider à déterminer ta fourchette de tarification. Une fois que tu as mis en place cette fourchette de tarification et que tu es à l'aise avec, je vais t'aider à mettre en place une politique de tarification avec une stratégie de négociation. Et une fois qu'on a mis en place cette stratégie de négociation avec les prix que tu as déterminés, je vais t'apprendre à mener des discussions avec des clients pour que tu puisses être en mesure de vendre tes prestations au juste prix, c'est le prix qu'elles valent sur le marché en termes de compétences, d'expertise et d'expérience et de qualité par rapport à la cible que tu vises, plutôt que sur ton niveau de confiance en toi.
Mais c'est magnifique ce que tu viens de dire. Alors, où est-ce que tu places la confiance en soi, du coup, dans tout ce trio?
En fait, si tu veux, pour moi, la confiance en soi, elle arrive dans un second temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de rationaliser les choses au maximum?
Oui.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu parles trop de confiance en soi dès la première discussion, tu vas avoir plein de femmes qui vont rester dans cette fausse croyance qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et du coup, elles vont se fermer des portes. Elles vont te dire, non mais attends, Insaf, Hayet, moi, de toute façon, ça ne sert à rien. J'ai pas confiance en moi. J'ai jamais eu confiance en moi. Je sais pas du tout comment vocaliser ma juste valeur. Je saurai jamais, donc on laisse tomber. Donc moi, en fait, je contourne ce problème-là et je leur dis, écoute, ta confiance en toi, pour l'instant, on s'en fout. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'aller découvrir des éléments factuels, des données de marché. Donc aujourd'hui, tu es esthéticienne, par exemple, ou tu es informaticienne. On va voir par rapport à ta cible et au service que tu proposes et à ta prestation, quelle est la politique de tarification qu'on peut mettre en place, quelle est la stratégie de négociation qu'on va pouvoir mettre en place, avec laquelle tu te sens à l'aise et que tu vas pouvoir défendre parce qu'elle te ressemble. Une fois qu'on a fait tout ça, je leur apprends à le vocaliser. Et je leur apprends pas à le vocaliser en disant « moi, je veux tel prix ». Je leur apprends, par exemple, à le vocaliser en disant « si moi, je pose la question à Hayet en disant « quel est le prix de ta prestation ?», Hayet ne va pas me répondre « bah moi, mes prix, c'est 10 euros ou c'est 20 euros ». Elle va répondre plutôt, les prix pour ce type de prestation sur le marché sont dans une fourchette entre 15 et 20. Je vous propose qu'on étudie quelque chose autour de 15 et 20.
D'accord.
Une fois que tu as fait tout ça et que tu as rationalisé, en fait, tu lui as fait comprendre par la pratique.
C'est ça.
Qu'en fait, elle est capable de faire tout ça.
Oui, c'est ça. Mais c'est
même une fois qu'elle a expériencé le fait qu'elle est capable de le faire, la confiance en elle, elle vient directement.
Exactement.
On a enclenché le cercle vertueux.
C'est une conséquence, c'est pas une condition.
Exactement. Ça devient une conséquence. Et en fait, si tu veux, c'est encore mieux que la condition parce qu'elle sait très bien, en appliquant cette méthode-là, que finalement, la confiance en elle, c'est comme un muscle. Plus elle va travailler, plus elle va entrer dans des discussions, plus elle va négocier avec ses clients, plus elle va affirmer sa politique tarifaire, etc. Et plus elle va prendre de l'aisance, plus elle va se l'approprier et plus ça va devenir naturel, comme la marche.
Exactement.
C'est un parallèle avec les enfants tout à l'heure. C'est pareil. Les enfants, au départ, ils tombent, ils pleurent, ils se relèvent, ils te disent « Maman, les bras et tout, j'y suis pas arrivée. » T'as le sentiment qu'eux pensent qu'ils vont jamais apprendre à marcher. Et puis, tout devient naturel. Et un jour, ils se lèvent, ils courent et ils ne rentrent plus à l'heure que tu leur as donné.
Tout à fait. Ce changement d'angle, et moi, je pense que ça va provoquer énormément de déclics chez les auditrices. Parce que là, c'est concernant les femmes, ça va débloquer beaucoup de choses. Et si je dois faire un parallèle avec des thérapies, c'est les thérapies comportementales. Tu sais, dans les thérapies comportementales, on fixe le comportement, on fixe pas l'état psychologique dans lequel tu es et dans lequel le patient s'enferme, qui empêche en fait d'avancer. Mais ce que tu viens de nous donner, ça n'a pas de prix. Mmh. Et je suis sûre que j'aurai plein de retours par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est le point de blocage d'énormément de personnes.
Et tu sais, Hayat, je vais même aller plus loin. Et moi, je l'observe, hein, parce que vraiment, je coach des femmes toute la journée. Hein. et en fait, je le vois. Il y a des femmes qui viennent me voir, qui sont dans une coquille. Et elles me disent, écoute, Insaf, tu sais, moi, ça va être compliqué. Je pense que tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Tu sais, j'ai jamais eu confiance en moi, etc. Et puis petit à petit, donc elles appliquent la méthode. Tu les vois s'éclore. Tu vois vraiment la chrysalide devenir papillon.
Oui.
Et le jour où elles arrivent à négocier leurs tarifs, elles le font très bien. Elles ont des clients, ça marche bien. Elles commencent à gagner de l'argent. Tu vois que cette énergie-là, elle rayonne dans leur vie personnelle. Et toutes les choses qu'elles acceptaient auparavant, par leur conjoint qui n'était pas OK, par leur famille, par leurs amis. Toutes les choses, tu vois, elles baissaient la tête et elles se disaient que finalement, elles ne méritaient pas plus, tu vois, ou elles ne méritaient pas mieux. Bah, tout doucement, et moi vraiment, c'est le sel de mon travail, tu le vois leur tête qui se relève tout doucement et tu vois qu'elles se rendent compte que c'est des femmes qui méritent vraiment le meilleur et elles l'affirment, elles l'assument et tu vois leur vie changer. Et moi, quand je vois ça, vraiment, c'est bon, j'ai fait mon job et je peux partir.
Ben ça, j'imagine bien, parce que réussir à faire ça, c'est assez, c'est top, quoi.
Tu sais, je vais te donner un exemple d'une femme que j'ai coachée récemment qui était très jeune. Mm-hmm. Elle a jamais vraiment eu confiance en elle. Elle est très timide. Elle n'ose pas parler. Tu sais, c'est quelqu'un de très discret et vraiment limite invisible. C'est quelqu'un qui s'invisibilisait. Et elle s'est fait un peu manipuler par son employeur qui a profité d'elle et qui, une fois l'avoir bien essorée comme un citron, a décidé de séparer d'elle via une rupture conventionnelle qui voulait lui faire signer selon ses propres termes. Elle est arrivée, elle était même dans sa voix, elle bégayait. Mm-hmm. Et elle répondait pas vraiment à mes questions, elle était vraiment, je la sentais vraiment au fond du gouffre. Et petit à petit, on a travaillé, je lui ai fait comprendre ses droits, je lui ai montré comment faire, j'ai piloté toute sa rupture conventionnelle en sous-marin. Et une fois qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait cette capacité-là, sans s'énerver, sans rentrer dans un tsunami émotionnel, sans être quelqu'un qu'elle n'était pas, tout en respectant la nature de sa personnalité, qu'elle avait la capacité de vocaliser sa juste valeur, de dire non, de le faire à la manière dont elle voulait. Et finalement, quand elle a obtenu une rupture conventionnelle selon ses propres termes à elle, eh ben, je peux te dire que cette fille-là a changé en un mois. En un mois. Et tu sais, sa sœur m'a écrit en me disant, parce que c'était sa sœur qui me l'avait envoyé, elle m'a dit, tu sais, Insaf, je ne reconnais plus ma sœur.
Oui, j'imagine qu'elle était... cette femme existait au fond d'elle, mais elle l'a toujours enfermée, elle l'a toujours, elle l'a jamais assumée. Parce que ça fait peur aussi quand on, tu sais, des fois, on ressent des choses au fond, on se dit, une voix lointaine, je sais que je suis capable de faire ça, je sais que je suis capable de faire ça, et puis on l'endort, et puis on a peur, en fait, que cette voix-là surgisse et qu'il y ait plus rien de contrôlable, que, par exemple, la relation de couple est remise en question, la relation avec les parents, avec les amis soit remise en question. Ça fait peur, ça aussi. Comment tu gères ça, toi, quand tu coaches les femmes qui ont peur de ça?
Alors moi, je leur dis toujours, et c'est quelque chose que je m'applique aussi à moi-même, tu sais, Hayet, hein. Les gens entrent dans ta vie pour trois raisons, soit pour une raison particulière, soit pour une saison, soit pour la vie. Et ça, c'est très important de se le dire et le redire, parce que du coup, ça désémotionnalise et ça dédramatise le fait que des fois, des gens rentrent dans notre vie et en sortent. Le fait est que, et ça, beaucoup de gens vont te faire ce même retour-là, quand tu commences à assumer qui tu es et à le vocaliser, encore une fois, de manière très pacifique, hein, oui. Tu n'es pas obligé de battre avec ton mari ou avec tes parents ou avec tes amis,
oui, oui.
De rentrer dans des conflits ou d'être dans un tsunami émotionnel qui t'empêche de dormir la nuit, tu vois.
Oui, oui.
Mais à partir du moment où tu es droite dans tes bottes et tu es droite comme un i et tu n'acceptes plus l'inacceptable, mais juste en disant non. Tu vois, je donne un exemple, par exemple. Si tu as une belle-sœur qui a l'habitude ou une belle-mère qui a l'habitude de venir chez toi sans te dire, sans te prévenir avant et qui a l'impression que chez toi c'est chez elle et que c'est un moulin, il suffit de lui dire, écoute, c'est quelque chose qui ne me correspond pas, s'il te plaît, la prochaine fois, préviens-moi. Et si elle le fait pas, tu ne lui ouvres pas la porte. Et tu verras que une fois, deux fois, trois fois, elle comprendra. Et tu ne t'es pas engueulé, et tu n'es pas entré dans un tsunami émotionnel ni quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire en fait que il y a des gens qui. Et tu sais, moi, je le dis toujours. Hein, moi, j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie avec mon changement. J'avais des amis qui sont partis parce que finalement, c'était pas de véritables amis. Oui. Parce qu'à partir du moment où je me suis affirmée, je me suis rendu compte que la personnalité que je devenais ne leur plaisait plus parce que jusqu'ici, je rentrais dans leur agenda. Alors que l'idée, c'était qu'on avance tous ensemble.
Oui,
mais elles m'utilisaient pour me faire rentrer dans leur agenda.
Oui,
c'est et ça m'est arrivé à moi et ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de honte à le dire.
Toutes les relations sont systémiques de toute façon. À partir du moment où tu rencontres une personne avec un état d'esprit, cette personne, elle est en fonction de ce que tu es à un moment. Donc, tu crées un système relationnel avec elle. Et si tu changes, forcément, bah, le système, bah, ça fonctionne plus. Et donc, elle va sortir du système et c'est d'autres personnes qui vont rentrer.
Exactement.
Dans ta vie. Et c'est vrai que tu as raison. Si on regarde ça, si on voit ça d'un point de vue systémique, il est normal que les gens ne réagissent plus comme ils réagissaient avant, puisque toi-même, tu n'es plus la même.
Exactement. C'est tout à fait ça. Tu sais, il y a cette expression qui dit, moi, je l'aime bien, hein, parce que je pense que elle permet aussi de se libérer. C'est très libérateur de se dire, on est deux pour danser un tango. Tango, ça se danse pas tout seul. Et une relation, c'est jamais tout seul. Oui. Tu sais, on le dit toujours, tu n'es jamais la victime, tu es toujours le démon, le diable de quelqu'un d'autre. Donc, dans l'histoire que l'autre personne va raconter, tu es toujours la personne qu'elle va diaboliser. Donc, c'est pas grave, finalement. C'est juste qu'en fait, votre relation, à un moment donné, elle était peut-être devenue toxique parce qu'elle était déséquilibrée. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et si elle est déséquilibrée, eh ben, c'est pas grave, il faut y mettre un terme. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'y mettre un terme du jour au lendemain. Mais on peut juste nous changer, voir quelle est la réaction de l'autre face à ce changement. Si c'est une réaction qui est positive, c'est formidable. Si vous êtes face à une personne qui est rentrée dans votre vie, ni pour une raison, ni pour une saison, mais pour la vie. Et si le comportement de cette personne-là change et qu'elle n'est plus d'accord, c'est qu'elle vous a donné la réponse. C'est que votre relation humaine n'est pas saine. Et qu'il est préférable de... Tu sais, on dit toujours, hein, il faut faire de la place pour faire rentrer des choses meilleures.
Oui.
Donc, ça vous permet de faire du ménage et de faire rentrer des choses meilleures.
Il faut purifier et faire du tri, effectivement, pour faire rentrer la lumière. Tu sais, quand j'ai créé ce podcast à destination des femmes, on m'a dit, « Ah, mais tu exclus les hommes. Donc, tu as une approche féministe. » Et en fait, quand je réfléchissais, puis je me dis, mais non, en fait, pas du tout. C'est pas un projet féministe pur et dur, donc le féministe que tu as défini en début d'épisode, hein, en début de l'interview, mais plutôt une sorte d'entraide. Et j'ai découvert la notion de sororité. Et dans ton ONG, Lynine, la sororité, c'est l'ADN du mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu conçois la sororité et comment tu la définis dans un contexte où le genre masculin se revendique comme étant la norme ?
Alors, merci pour ta question, Hayat, parce qu'elle permet vraiment de clarifier beaucoup de choses. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que ça ne m'étonne pas du tout qu'on t'ait dit, quand tu voulais réserver ce podcast aux femmes entrepreneurs, qu'on t'ait spontanément et instantanément dit que tu voulais exclure les hommes. Alors, moi j'ai quelque chose pour moi qui est très important. C'est, comme tu l'as dit, c'est la sororité. Moi, j'ai pas de difficulté à réserver des espaces de parole pour les femmes. Je n'exclus pas les hommes. Tu sais, moi, ma méthode, ma juste valeur, elle est à destination des femmes. En termes de pur business, c'est vraiment un mauvais coup pour moi, parce que je me coupe un peu de la moitié du monde. Donc, si on parle en termes de business, c'est un mauvais move. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, il est important de réserver des espaces de parole aux femmes. On a besoin de ça. Comme les hommes ont besoin d'espaces de parole qui leur sont dédiés, on a besoin d'avoir des espaces de parole qui sont réservés aux femmes. L'idée, c'est pas de les exclure, c'est juste de dire, ben, on a besoin de se retrouver tous les deux. Tu sais, c'est drôle, ça me fait penser à, c'est comme si une famille fêtait Noël et que quelqu'un d'autre venait et disait, mais pourquoi vous m'excluez? On t'exclut pas, c'est juste qu'on a envie de se retrouver entre nous.
Entre nous, ouais, tout à fait.
Et c'est ça la, et moi, je pense que c'est ça la clé pour répondre à ceux qui te taxent de les exclure. Après, pour moi, tu me demandais ce que c'est la définition de la sororité. Tu sais, en attendant, pour moi, la sororité, c'est des femmes qui s'entraident entre elles. On est dans une société où on a l'impression que la lumière, elle est, et que l'abondance, c'est un bien qui est limité. Et en fait, tu sais, la lumière, elle est là pour tout le monde. L'abondance, elle est là pour tout le monde. Oui. Quand tu crées quelque chose et que tu es abondante, tu n'as rien enlevé à personne. Et la difficulté, c'est qu'on éduque les filles en leur disant, c'est soit toi, soit une autre.
C'est ça.
Ça ne pourra pas être toi et une autre. Et moi, en fait, je sors cette opposition-là et je fais rentrer le « et ». Et je dis toujours aux femmes, c'est moi et les autres. C'est moi et les autres femmes. Moi, j'ai pas d'intérêt à réussir si c'est pour réussir toute seule. Je veux réussir pour les femmes, pour leur montrer que c'est possible et pour les emporter avec ma réussite.
Mais c'est exactement ça que j'avais en fait prévu dans mon podcast d'origine. Et c'est vrai que quand on m'a fait cette remarque, je me suis dit, mais de quoi il parle en fait? Je vois pas du tout de quoi il s'agit. Et puis, j'ai l'impression aussi que l'égalité homme-femme, c'est devenu quelque chose d'exclusif. Ça veut dire, c'est soit égalité homme-femme, soit rien.
Bah, en fait, si tu veux, cette vision des choses, elle est portée, je pense, par les masculinistes et ceux qui sont contre l'égalité homme-femme.
Ça m'intéresse à ce que tu dis.
En fait, quand tu regardes l'histoire de l'égalité homme-femme, c'est pas l'égalité, on a tous les deux les mêmes droits. Tu sais, il y a cette image que j'aime beaucoup de deux enfants qui regardent un match de foot. Et en fait, on te fait la différence entre l'égalité et l'équité. Oui. L'égalité, c'est peu importe ta taille, on te donne le même escabeau qui a la même taille. Donc si t'es plus grand, tu vois plus loin. Mais si t'es plus petit, bah, tu vois toujours rien. L'équité, c'est d'adapter l'escabeau à la condition de chacun. Et en fait, tu sais, l'égalité femme-homme, ce n'est pas de dire les hommes et les femmes sont pareils biologiquement, ils ont les droits, ils ont tous les mêmes droits, etc. On est obligé de, c'est tout le monde à la même enseigne. Non, l'égalité homme-femme, pour moi, c'est de dire on adapte le droit à la personne qui en a le plus besoin. Et là, typiquement, il n'y a pas suffisamment de femmes entrepreneurs. Typiquement, alors juste une seconde.
Vas-y, Lénie, je t'en prie.
Typiquement, tu vois, on voit très bien que l'entrepreneuriat féminin est très résiduel, que les femmes, qu'il y a pas, quand elles font des levées de fonds, elles n'en font pas suffisamment ou elles n'ont pas accès au financement. On voit très bien que dans le monde du travail, c'est différent et tout le monde n'est pas logé à la même ancienne en raison de son genre. Donc, l'idée, c'est d'apporter un peu plus d'équité là-dedans et de dire, bon, bah voilà, l'égalité, c'est avant tout l'équité et de permettre à tout à chacun de pouvoir réaliser sa mission de vie finalement et d'avoir accès à la lumière de la même manière que toi, tu l'as. Mais pour revenir un peu au propos des masculinistes, il y en a beaucoup qui font des levées de boucliers et qui te disent « Non, l'égalité homme-femme, c'est les femmes veulent dominer les hommes. » Moi, je leur dis toujours « Non, cette histoire de domination, elle est dans ta tête à toi parce que t'es un homme et que c'est un attribut de masculinité.
Oui,
moi, je suis pas dans la domination, je suis dans la collaboration. »
Oui. Et on peut pas collaborer, on peut pas ne pas collaborer.
Exactement.
La vie n'est pas, enfin, faire la guerre, ça sert à rien, en fait. La guerre des sexes ne mènera pas à l'apaisement et au bonheur, de toute façon.
Oui, et puis de toute façon, on l'a très bien vu, pour la survie de l'espèce, on est obligé de collaborer.
Exactement, tout à fait.
Donc, ça ne sert à rien de dominer, tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui, tout à fait.
Mais pour moi, ça encore, c'est une réflexion d'hommes qui ont peur. Qui ont peur parce qu'ils ne sont pas bien dans leur basket et parce qu'ils ont peur du potentiel féminin. C'est ça la réalité.
Alors, Insaf, tu es une véritable leader. Parce que pour moi, une leader, c'est quelqu'un qui arrive à emmener du monde autour de sa vision dans un esprit de confiance. Comment tu vois l'avenir de Lénine et de Ma Juste Valeur ?
Alors, l'avenir de Lénine, je le vois encore très florissant, hein, puisque c'est une association qui a pour vocation d'emmener un maximum de femmes avec elle et surtout de les aider à réaliser leur plein potentiel. Donc, j'espère qu'on va continuer à exister encore longtemps et qu'on va pouvoir aider encore un maximum de femmes. C'est vraiment mon objectif.
Je n'en doute pas.
Et puis, Ma Juste Valeur, c'est la verticale économique de Lénine France. Mmh. Et j'ai beaucoup de projets pour Ma Juste Valeur. Là, on a sorti les formations aux particuliers. Donc, on apprend aux femmes, peu importe leur statut, qu'elles soient salariées, indépendantes, fonctionnaires ou contractuelles de l'administration publique, on leur apprend comment aller déterminer leur juste valeur, mettre en place une stratégie de négociation, l'assumer et puis après la défendre face à leur employeur ou à leur client. Et puis, il y a une formation aussi sur la rupture conventionnelle, sur comment préparer son retour, son départ et son retour de congé maternité.
Oui.
Et puis, on lance une chaîne de TV, au mois de septembre. Donc, c'est une chaîne de TV digitale qui est autour de cette notion de juste valeur dans le milieu professionnel et personnel. Et puis, en plus de la chaîne de TV, moi, j'ai vraiment cette volonté de monter un cabinet d'avocats pour défendre les droits des femmes. Et bon voilà, ça sera peut-être à moyen terme parce que il y a quand même beaucoup de projets qui sont sur le feu.
Oui.
Mais voilà, j'ai vraiment cette volonté de défendre les droits des femmes et vraiment d'apporter une réponse juridique aux femmes les plus vulnérables ou celles qui se sont senties dans une situation de vulnérabilité, leur rappeler qu'elles ont une dignité et les aider à la retrouver.
Là, tu parlais de retour de congé de maternité. Et donc là, tu es à peine, je crois, sortie du congé de maternité. Tu as récemment eu un petit loulou. Est-ce que c'est ton premier ?
C'est mon premier, oui.
Alors, est-ce qu'avant d'avoir un enfant, tu avais, comme la plupart des femmes, peur que la maternité t'empêche de voir grand dans tes ambitions professionnelles ?
Complètement. Complètement. J'étais vraiment dans ce cliché-là que déjà moi dans ma tête j'avais déjà deux enfants, hein, c'était Lénine France et Ma Juste Valeur. Donc comme n'importe quelle maman quand elle a deux enfants, elle se pose toujours des questions avant de faire le petit troisième. Hein. Et puis moi j'étais dans ce cliché que la maternité allait être un frein à ma vie de femme, à ma vie de professionnelle. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition et j'ai toujours été très consciente de la limitation qu'on a en termes de temps. Les journées font 24 heures et moi, j'ai d'autant plus cette conscience-là que j'ai un job à plein temps et en plus mes activités avec Lénine France et avec Ma Juste Valeur. Donc, et un mari dont il faut quand même s'occuper pour nourrir son couple. Hein. Donc,
tout à fait.
Et une maison, etc. Donc, tu vois, j'avais très peur que cet enfant vienne chambouler ma vie et que finalement, je m'oublie dans le sacrifice de la mère. Et en fait, pas du tout. Moi, Joseph, c'est mon fils, il a 3 mois aujourd'hui. Écoute, je n'ai jamais eu autant de pêche, autant de force, autant de niaque que j'en ai aujourd'hui. Et j'ai envie qu'il soit fier de sa maman. J'ai envie de construire un monde où il est heureux d'évoluer et de vivre. Et j'ai envie de lui offrir une alternative à lui et tous les autres enfants. Et j'ai envie aussi de le faire grandir dans un environnement où il n'a pas de soucis à se faire d'un point de vue humain, relationnel, émotionnel et financier. Je veux que mon fils soit indépendant émotionnellement, financièrement et humainement. Et c'est le meilleur moteur que je puisse trouver. Je suis complètement amoureuse de mon fils, on peut le dire. Je suis la maman arabe par excellence.
C'est tout en ton honneur. Alors, ton fils était un frein, enfin, ton bébé imaginaire était un frein. Aujourd'hui, c'est un moteur. Donc, c'est magnifique de constater, en fait, à quel point nos préjugés peuvent être un frein et au final, peuvent devenir le moteur qui vont te donner le moteur qui va te donner un sens à ce que tu fais.
J'aimerais aussi rajouter quelque chose si tu me permets.
Oui, bien sûr.
Je pense que le cliché que j'avais, ce cliché que j'avais et auquel j'étais attachée avant d'avoir Joseph, c'est aussi ce qui est véhiculé par le monde de l'entreprise. On te fait très bien comprendre et le monde du travail. On te fait comprendre que quand tu as un enfant, c'est un frein à ta carrière. Oui. Donc voilà, c'est soit les enfants, c'est soit ta vie de femme et ta vie de mère, soit ta vie de femme entrepreneur ou de femme qui mène carrière dans une entreprise. Et en fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent, si vous avez un doute, sachez-le, ce n'est pas vrai. Tout est conciliable. Je n'ai jamais développé. Alors déjà, avant, j'étais pro du multitasking, mais là, j'ai jamais développé autant de compétences en termes de jonglage que j'ai aujourd'hui. Tu vois la preuve, je suis en train d'enregistrer ce podcast, mon fils
avec lui.
Il pleure un petit peu, je lui caresse les cheveux, je le câline, et ça m'empêche pas d'être complètement intelligible quand je diffuse mes propos. Donc voilà. À mon sens, un enfant ne succombez pas aux sirènes de la non-maternité parce que celles-ci sont fausses et je pense, surtout si vous avez un désir de maternité, vous risquez de le regretter et de finir aigri, comme plusieurs femmes le sont malheureusement, surtout celles de la génération précédente qui ont dû renoncer à leur vie de femme et de mère pour pouvoir évoluer dans leur vie professionnelle.
Exactement, et c'est très important ce que tu viens de dire, ça va justement parler à beaucoup de femmes qui sont dans le « où ?» ça ou ça. Mmh. Et toi, tu réintroduis le « et ».
Oui.
Donc, la vie professionnelle, les ambitions et la vie de famille et le retour à l'enfance. Et c'est génial. J'adore. Alors, Issa, pour finir l'interview en beauté, j'aimerais te proposer un petit instant introspection.
D'accord.
Pendant 2 minutes, je te pose une série de questions sur ta vie et tu dois essayer de répondre le plus vite possible à un max de questions. Et donc, ces 2 minutes doivent permettre aux auditrices, auditeurs d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce D'accord. que tu es prête ?
C'est parti.
Top chrono. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie passée ?
De ne pas avoir assumé qui j'étais plus rapidement.
Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie actuelle ?
Absolument rien.
Magnifique. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel ?
Je suis quelqu'un, un être humain, et je pense qu'on est tous exceptionnels à notre manière.
Qu'est-ce que tu détestes chez toi ?
Et j'aime tout chez moi, il n'y a rien que je déteste. Parce que tout ce qui peut être... parce que j'ai les qualités de mes défauts et les défauts de mes qualités.
Voilà, alors du coup, on va répondre à la question suivante. Qu'est-ce que tu détestes chez les autres ?
Alors, il n'y a rien que je déteste aussi chez les autres, c'est des comportements que je n'aime pas. Mm-hmm. Et ce que je n'aime pas, par exemple, c'est qu'on me fasse perdre mon temps. C'est les gens qui te font perdre ton temps, ton argent... et ton énergie.
Qu'est-ce qui te fait littéralement fondre ? J'imagine la réponse.
Mon petit bébé.
Ta plus belle rencontre dans ta vie ?
Mon mari.
Ta plus mauvaise rencontre dans ta vie ?
Ma plus mauvaise rencontre, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise rencontre parce que tu sais, j'aime beaucoup cette citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je pense que les mauvaises rencontres, enfin celles qu'on pense être des mauvaises rencontres, en fait, c'est des merveilleuses leçons de la vie.
Le plus bel échec dans ta vie ?
Je pense que c'est le fait d'avoir subi une inégalité salariale en 2014 qui m'a permis de monter l'ININ.
Une réussite que tu encadrerais fièrement comme un diplôme ?
Alors, j'ai 3 réponses.
Oui.
Mes 3 bébés, l'ININ France, ma juste valeur et mon fils.
Ça fait 3 beaux cadres.
Oui.
Qu'est-ce qu'on n'aime pas chez toi ?
On aime tout chez moi.
Comment tu te vois dans 10 ans ?
Heureuse, amoureuse et épanouie et avec encore plein d'autres bébés, si Dieu veut.
Oui, et puis tu vas les emmener à l'école.
Oui.
Et voilà, ça fait 2 minutes. Merci pour toutes ces réponses. INSAF, c'était une interview très, très riche. On sent l'expérience, on sent la maturité. Le professionnalisme aussi. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'invite un profil comme le tien et je suis plus que ravie. Je suis très, très, très contente de ce que tu nous as délivré aujourd'hui. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Je remercie ton petit Joseph qui lui aussi nous a accompagnés. Donc c'est bien, il commence très tôt avec maman.
Il est féministe lui aussi.
Oui, voilà. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'on peut te retrouver, INSAF ?
Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, INSAF Elassini. Vous pouvez également retrouver l'ININ France sur LinkedIn, sur Instagram, @LininFrance. Si vous êtes intéressé par ma juste valeur et que vous voulez apprendre à déterminer, assumer puis défendre votre juste valeur, vous pouvez nous retrouver sur www.majustevaleur.com. Pour les anglophones aussi, c'est My Fair Value.
Ah,
et
oui.
Puis Instagram, ma juste valeur, évidemment. Et puis... J'aimerais moi aussi beaucoup te remercier, Hayat. J'ai pris beaucoup plaisir à faire cette interview. Et je souhaite vraiment beaucoup de succès à ton podcast. Et j'espère que ce quatrième enfant t'apportera énormément de bonheur.
Je l'encadrerai fièrement dans quelques années. Merci beaucoup, Insaf. Prends soin de ton mental et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir, Hayat.
On y revient toujours, cette histoire de rapport à l'argent. J'ai adoré cette discussion avec Insaf parce qu'elle a mis des mots précis sur ce que la plupart des gens ressentent sans parvenir à le définir. S'il y a tant de débats passionnés avec l'argent, c'est parce qu'à l'origine, l'argent est un attribut de masculinité. Et comme ça fait un moment que c'est un attribut masculin sociétal, eh ben la bagarre ne va pas se faire sans dégâts collatéraux. Le truc, c'est que ça se passe essentiellement dans la tête. Derrière l'argent, il y a des représentations, positives, négatives. Et quand vous êtes entrepreneur, définir clairement ces représentations est essentiel si vous voulez que votre business ait une chance de cartonner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, vous aurez du mal à vendre. Or, dans la vente, il n'y a pas qu'un échange d'argent contre un produit ou une prestation, il y a aussi le fait de déterminer la valeur de ce que vous vendez. Et ça peut faire toute la différence entre un business rentable qui va durer et vous permettre de vivre votre indépendance financière et un business qui survit et qui mettra la clé sous la porte au moindre coup de vent. Le secret, c'est de désémotionnaliser les choses, comme dit Insaf. Voir l'argent comme un outil qui permet d'échanger des intérêts communs. Moins vous mettrez de l'émotion dans l'argent, plus vous serez capable de déterminer la juste valeur de vos produits. Comme le dit Insaf, la plupart des femmes indexent leurs tarifs sur leur niveau de confiance en elles. Et comme au départ, la confiance en soi est généralement proche de zéro, elles partent avec un handicap qui mettra fin prématurément à leur projet. La méthode « ma juste valeur » que propose Insaf est assez naturelle finalement. D'abord, déterminer sa valeur, c'est un travail d'introspection qu'on peut faire seul ou accompagné, mais je pense que c'est un peu mieux quand même d'être accompagné parce que si on a du mal à déterminer sa propre valeur, faire intervenir une personne dont c'est la spécialité permet de rendre objective cette valeur. Et puis, assumer sa valeur. Maintenant qu'on l'a bien définie, il va falloir la défendre, mais pas de manière revendicative, parce que quand on est dans la revendication, c'est qu'on n'assume pas encore ce qu'on est. Assumer, c'est avoir pleinement accepter qui on est. Ça ne veut pas dire que le doute ne pointera jamais son nez, mais vous avez un socle fort qu'on ne peut pas facilement ébranler. Enfin, vocaliser. Vocaliser sa valeur permet de la rendre vivante en la ramenant constamment à sa conscience. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la vocalisation, ça a l'air un peu fantaisiste comme ça, mais plusieurs études ont prouvé que la vocalisation participait à la construction ou à la reconstruction psychique d'un être humain. Vocaliser vous aidera à assumer encore plus qui vous êtes et à entretenir le cercle vertueux de sa juste valeur. Vocaliser permet aussi de poser le cadre de la négociation parce que votre valeur sur le marché, c'est toujours en fonction d'autres éléments. Une valeur, c'est quelque chose de relatif. Pour revenir à la confiance en soi, j'ai toujours pensé qu'elle n'était pas un prérequis pour commencer à entreprendre. Parce que pour moi, la confiance vient avec la pratique, avec l'épreuve de réussite. Et c'est marrant parce que je partage exactement le même point de vue qu'Insaf là-dessus. Ne vous focalisez donc pas sur votre niveau de confiance en vous pour déterminer si vous allez ou non réussir votre projet entrepreneurial. Ce sera donc mon conseil du jour et c'est sur ces mots que je finis mon analyse d'aujourd'hui. Je suis certaine que cet épisode a remué beaucoup de choses, alors il est temps pour moi de vous laisser y réfléchir tranquillement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vocation Entrepreneur. Si vous aimez mon contenu, allez vite me donner votre avis par mail sur hello@vocationentrepreneur.com ou un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et auprès de votre entourage. Et n'oubliez pas, prenez soin de votre mental.